sur un point de départ qui est bon, c'est-à-dire que j'aimerais que Dieu puisse démarrer avec nous une année. Alors c'est vrai que c'est une année civile, hein, on n'est pas meilleur le 31 décembre que le 1er janvier ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui change. C'est juste un numéro qu'on change à la fin d'une date. Toutefois, c'est vrai qu'on a des points de repère comme cela, où Dieu aime parler à son peuple. Et Dieu aime bien aussi donner des visions ou des projets à son peuple. Dieu aime bien faire en sorte que son peuple soit guidé. Et Dieu était toujours là avec son peuple à pouvoir dire ou expliquer ou alors ou aller remonter ou les reprendre, etc., pour pouvoir aller là où Dieu voulait que son peuple aille. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc sentez-vous libre, hein, ça va, hein, Josine, pareil, donc prudence. D'accord, je vais laisser un petit peu de temps à la fin. Je vais certainement déborder. Il est déjà 11h10, donc forcément, je vais déborder. Hein, donc voilà, sentez-vous prêt. J'aimerais réellement que Dieu parle ce matin. Ce matin, clairement, quand Josine a pris le micro tout à l'heure et que je l'ai écouté, je me suis dit, voilà, mon prêche, il est là. Et alors, il y a des moments, on pourrait très bien se dire, ou même quand Alex a commencé à prendre la parole, je me suis dit, mais pourvu qu'il ne prenne pas mon prêche, quoi, ou quoi que ce soit. Mais maintenant, il faut partir du principe que ce sont des confirmations de Dieu. Il m'est arrivé une chose cette nuit, je suis un peu comme les poupées. Vous savez que quand une poupée, on l'allonge, ou je ne sais pas comment sont les poupées des enfants de maintenant, hein, mais avant, dans notre vieux temps, les vieilles poupées de Pascaline sont un peu identiques. Quand on les allonge, elles ont les yeux qui se ferment. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis pareil. Vous me mettez dans un lit, je suis comme une poupée. J'ai les yeux qui se ferment et je m'endors. D'accord? Sauf que cette nuit, quand je me suis couché, j'étais en train de cogiter à mon prêche. Ça fait plusieurs jours que je suis dessus. Et j'ai été gêné cette nuit par mon cœur. Littéralement. Pas par mon cœur où j'avais une sensibilité de Dieu, mais j'avais mon cœur qui battait dans ma poitrine et il me faisait mal. C'est-à-dire que, attention, hein, les infirmiers, vous ne levez pas, venez pas me sculpter, venez pas me faire un petit massage ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est que cette nuit, j'avais mon cœur qui battait tellement fort que je ne pouvais pas m'endormir. Et j'ai été obligé de me relever cette nuit. Et je suis allé dans mon bureau et j'ai travaillé sur ma prédication jusqu'à 2h30 ce matin. À 2h30, je me suis dit, mais il faut que j'aille me coucher. Et ce matin, à 6h moins le quart, j'ai dû me relever parce qu'il a fallu que je continue. Parce que je pense et je suis convaincu que Dieu veut parler. Et peut-être que, pour certains, déjà pendant la louange, Dieu vous a parlé. Peut-être que Dieu vous a révélé des choses. Peut-être à vous personnellement, peut-être aussi pour l'Église, peut-être pour le peuple de Dieu, avec un grand P pour peuple. Mais là, il faut absolument qu'on puisse être attentif à la voix de Dieu. Voyez, là, ma prédication, et la vidéo n'est pas partie, c'est le moment d'avancer. J'ai nommé cette vidéo, c'est le moment d'avancer. Peut-être que si je fais ça, voilà, c'est parti. C'est le moment d'avancer. Il y a quelque chose qui m'a percuté dans tout ce qu'a dit Alex la semaine dernière. Est-ce que vous vous souvenez de tout ce qu'a dit Alex la semaine dernière, déjà? Allô? Pas tout? Non, moi c'est Fred, pas tout, c'est mon frère. Il a voulu revenir un petit peu sur l'année 2020, tout ce qu'on a pu vivre en 2020. Clairement, lorsque on parle maintenant de l'année 2020 à beaucoup de personnes, et j'étais le premier concerné, je disais, mais quelle année pourrie! Quelle année pourrie! Et j'ai moi-même dit ça, j'ai dit, mais quelle année pourrie! Quelle année où ça a été vraiment. J'ai même dit, 2021, tant mieux, c'est là, ça arrive, et puis ça ne sera pas pire que 2020. Parce que je pense réellement, et je pense, et c'est la réalité, 2020 est une année historique. On a vécu tous ici une année historique. Donc c'est déjà un point positif, vous avez vécu une année historique. Par rapport à tout ce qui s'est passé, à tout ce que l'on a vécu. Mais Alex, il a fait un truc super la semaine dernière. C'est qu'il est revenu, il a même appelé à Elisabeth pour dire, Elisabeth, Dieu a parlé, viens répéter ce que Dieu a dit. Regardez, mettez-vous dans faites une introspection, regardez tout ce qui s'est passé en 2020. Et forcément, il y a des choses qui sont positives, qui sont sorties de 2020. Il n'y a pas que du négatif. Alors c'est vrai qu'il y en a certains qui ont eu des problèmes personnels. C'est vrai que certains ont pu perdre leur travail, etc. Mais ne me dites pas que Dieu n'est pas à la manœuvre. Peut-être que si aujourd'hui tu es dans des circonstances ou une situation qui est à tes yeux à toi grave, à tes yeux à toi triste, à tes yeux à toi inextricable, où tu te sens un peu dans une impasse, je ne peux pas croire que Dieu n'est pas à la manœuvre. Et là, dans mes notes, il me semble que j'avais dit que le peuple serait heureux de ce que je viens de dire, mais a priori, non. Il faut qu'on puisse toujours, et c'est ce qu'on va voir ensemble là maintenant, quand je dis c'est le moment d'avancer, c'est que quand on prend l'année 2020, elle est ce qu'elle est. Et moi, si je fais, par exemple, pour ma part, une introspection, j'ai eu le bonheur de voir mes enfants prendre leur baptême. J'ai eu le bonheur de pouvoir me remettre devant Dieu sur certaines circonstances ou certaines choses où j'ai composé des chants, par exemple. J'ai fait des choses pour Dieu que je ne faisais pas, où j'ai pu me remettre devant lui. Il y a des choses, même professionnellement, même si mon année professionnelle n'est pas comme je l'aurais souhaité, il y a des choses qui se mettent en place. Et je vois que 2021 va partir sous de bons augures pour moi. Et je veux le proclamer, je veux être positif par rapport à ça, mais ce n'est pas le principe d'être positif, c'est de pouvoir confesser des choses et des promesses que Dieu a pour vous. Parce que 2021 est peut-être une année que vous craignez, parce que vous vous dites, ben voilà, le Covid est toujours là, et on va là tout à l'heure, on a dit, on va l'abattre, etc. Moi, je crois que déjà Dieu a un plan qui est précis, qui est net, et qu'il faut qu'on s'attende à des choses glorieuses. Donc, ce qu'on fait, c'est que 2020, même s'il y a des choses qui ont été belles, et il faut les garder en mémoire, il faut absolument pouvoir honorer Dieu, avoir la reconnaissance pour Dieu, et lui dire, merci Seigneur, parce que c'est vrai que dans cette année pourrie, tu as fait des belles choses. Vous savez que personnellement, je l'ai eu le Covid, soi-disant. Quand je suis allé voir ma toubib, il y a quelque temps de ça, il y a peut-être 3 semaines, je lui ai dit, il y a quelque temps, j'ai perdu le goût et l'odorat. Elle me dit, cherchez pas, il n'y a que le Covid qui fait ça, vous avez eu le Covid. J'ai juste perdu le goût et l'odorat et j'ai eu 2 jours de fièvre. Dieu m'a préservé dans le fait d'avoir été vraiment achevé, d'être dans un lit ou en réanimation. Là, je pense que même si j'ai eu le Covid, et on pourrait très bien regarder ça avec des yeux, se dire, oh, te rends compte, tu as eu le Covid. Oui, mais Dieu m'a préservé parce qu'aujourd'hui, je suis là. Ne regardons pas le Covid comme une fatalité. Ne regardons pas le Covid comme une malédiction de Dieu. Non, il faut arrêter de proclamer des choses comme ça. On voit trop de choses sur les réseaux sociaux. Et peut-être que des fois, ça serait bien de faire un petit jeûne de réseaux sociaux. Parce que j'en ai un petit peu marre de voir, oui, Dieu revient, Jésus revient bientôt parce que. Gardons les pieds sur terre. Et continuons à avancer. Alex a dit un truc qui était, et c'est ça qui a un peu percuté mon intervention de ce matin, c'est qu'il a dit, voilà, l'année 2021 va être l'année de la consolidation. C'était ce terme-là que tu as utilisé, je ne sais plus. Il ne se souvient même pas de sa prédication. Non, mais c'était un terme comme celui-là, mais je me souviens, je crois que c'était consolidation. Pourquoi ? Parce qu'on est là pour construire quelque chose. Il ne faut plus qu'on soit dans le principe de repartir d'un point de départ. Vous savez, on a l'impression qu'il y a des gens, ici on n'a pas au phare des gens comme ça, mais des gens qui viennent au culte et ils recommencent leur vie spirituelle pour la semaine et ils doivent recommencer au culte suivant et ils recommencent une vie... Non, c'est une continuité. C'est-à-dire que quand on vous a parlé d'un prêche, quand vous avez entendu un prêche il y a un mois de ça, vous devriez encore vous en souvenir. Parce que le prêche doit forcément avoir quelque chose qui vous parle dans vos cœurs. Même si ce n'est pas la totalité du prêche, ne me dites pas qu'il n'y a pas des détails qui ne vous ont pas percuté. Dernièrement, j'ai prêché, Alex est revenu là-dessus, je vais peut-être arrêter de te prendre en exemple, mais bon, tant pis, c'est toi. Et il est revenu sur une prédication que j'ai faite il y a à peu près un mois sur le fait de recentrer sa vie spirituelle. Pourquoi ? Parce que je veux qu'on soit, et moi-même, et moi le premier, je voudrais que l'on soit tous dans le principe de construire quelque chose de pérenne avec Dieu. Pas qu'on soit quelque chose qu'on va construire, qu'on va démolir et qu'on va reconstruire. On n'est pas des Legos. Oui, à part le petit bonhomme qui marche. Ce matin, je vais parler de la zone de confort. La zone de confort. Vous connaissez la zone de confort ? Et c'est pour ça aussi que j'ai mis un costard ce matin. Parce que même si pendant de longues années, ça a été mon outil de travail, ça, où tous les jours j'étais habillé comme ça, je me suis dit que si ce matin j'arrivais en costard, certains vont se dire, voilà, c'est le premier dimanche de l'année, il a mis un costard, il s'est fait beau. Et oui, effectivement. Mais j'ai voulu voir vos réactions. Et ça n'a pas raté. Combien sont venus me voir pour me dire « Oh mais Fred, tu reviens d'un mariage ?»« Ou Fred, t'es beau aujourd'hui ?» Ça veut dire que les autres jours, je ne suis pas beau. « Ou Fred, t'as mis un beau costard. Ta femme, elle t'a fait un compliment. » Vous voyez, et toutes ces réflexions, et c'est vrai que je suis le premier à vous taquiner. J'aime bien ça. La taquinerie est sympa, c'est toujours amusant. Mais là, je suis sorti de ma zone de confort. On est toujours dans quelque chose qui... On aime bien les habitudes. Tout à l'heure, Alex a dit on va casser... je crois que c'est toi, c'est Sandy qui a dit qu'on va casser les habitudes, je ne sais plus. Bon, bref, c'est peut-être Chanel, peu importe. On va casser les habitudes, oui. Aujourd'hui, voir Julien qui est assis au premier rang devant moi, il a cassé une habitude. Parce que je pourrais très bien me retourner et je peux très bien vous situer là où vous êtes assis. Et moi le premier, parce que je suis toujours assis sur la même chaise. Même si je bouge, j'aime bien faire les 100 pas. La zone de confort. Et donc, voilà, aujourd'hui, on va proclamer le fait que Dieu veut faire en sorte que 2021 soit glorieuse pour lui. Parce que son peuple va être devant sa face et qu'on va construire quelque chose. Donc, je vous souhaite une excellente année à tous. C'est un peu une habitude, une tradition de souhaiter la bonne année, parce que je vous rappelle que le 31 décembre 2019, on s'est souhaité la bonne année, hein, à peu près à minuit, on était tous là. On a fait le réveillon l'année dernière, je crois que c'est toi Sonia qui a mis une photo sur Facebook, en disant il y a un an, on était au phare en train de souhaiter le réveillon, enfin souhaiter la nouvelle année. Et regardez ce qui s'est passé en 2020. Et donc, il faut qu'on puisse avoir, malgré tout, des paroles de bénédiction. Je vous souhaite le meilleur. Oui, je vous souhaite le meilleur. Ce n'est pas l'année qui a fait que les éléments ont été mauvais. Ce n'est pas parce que c'est arrivé en 2020 que 2020 est pourri. Ce sont les événements qui sont nuls. Ça va ? Je suis dur ce matin, non ? Ça va ? Je suis un peu dur, non ? On va prendre Colossiens, le chapitre 2, les versets 2 et 3. Chaussons les lunettes. Oh, Nodia, je n'ai pas été si dur que ça. Je combats ainsi afin que... Alors donc c'est Paul hein, qui parle au peuple de Laodicée. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Je termine et après je commente. Donc le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ce passage est très puissant parce que on nous parle du mystère de Dieu. Donc forcément, il y a un mystère de Dieu qui existe. Dans le mystère de Dieu, quand on reprend le grec, là, Dieu, donc le mystère de Dieu, après, on nous dit aussi bien du Père que de Christ. On nous parle le mystère de Dieu. Aussi bien du Père que de Christ. Il y a un singulier de Dieu. En fait, le grec, c'est du pluriel, hein, c'est théos. Et après, on nous parle de Dieu et de Jésus-Christ. Le mystère, il faut qu'on puisse connaître le mystère qui est en... Et quand on parle du mystère, c'est un singulier, il y a un mystère. Mais dans ce mystère-là, il y a à la fois la sagesse et la connaissance. Donc le mystère de Dieu est pluriel. Là, je vous ai paumé. Non ? Ça va ? Et si on prend, vous savez, j'aime bien un peu aller dans toutes les traductions, quand on prend la définition de la sagesse, en grec, c'est Sophia. Personne qui s'appelle Sophia ici ? Non ? C'est la sagesse, c'est la largeur et la plénitude de l'intelligence. C'est un mot utilisé pour la connaissance en général, le savoir de manière très diverse. La sagesse qui appartient aux hommes, spécialement la connaissance variée des choses humaines et divines, acquise par la vivacité et l'expérience et accumulée dans les maximes et proverbes. C'est la science, c'est l'érudition. C'est le fait d'interpréter les songes et de toujours donner l'avis le plus sage. L'intelligence démontrée par la découverte du sens de chiffres mystérieux ou d'une vision. C'est l'adresse dans la direction des affaires, etc. Il y a une définition qui est longue comme ça, je pourrais la prendre mot par mot, mais il faut vraiment qu'on puisse rentrer dans le mystère de Dieu. Et j'aimerais réellement que, pour cette année 2021, quand je vous souhaite une bonne année, c'est qu'on puisse rentrer dans ce mystère de Dieu. Avoir la pleine sagesse et la connaissance, que l'on puisse rentrer dans cette notion d'érudition pour Dieu. On a vraiment à cœur, ici au phare, avec l'équipe, l'équipe de dirigeants, l'équipe de responsables, c'est de pouvoir vraiment vous emmener dans de l'éducation spirituelle, dans la connaissance de la parole. La Bible, ce n'est pas un gros bouquin, tout joli, qui est fait pour caler un meuble. Il est là pour être ouvert, pour être lu et pour être médité. Parce que, à contrario, et j'en parlais justement avec mon neveu hier ou avant-hier, il faut vraiment, et c'est une diac que j'ai mis juste après, et je vais tout de suite vous la révéler, mais il faut que l'on puisse avoir dans nos vies un équilibre de l'Évangile. L'équilibre de l'Évangile, c'est le fait de pouvoir avoir, vous savez, comme ces funambules qui vont tendre une corde et qui vont marcher sur la corde. Il faut qu'il y ait un équilibre qui soit parfait. Alors certains prennent des grands bâtons, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, mais pour pouvoir garder cet équilibre, mais il y en a qui sont capables de marcher sur une corde tendue, ou pas d'ailleurs, mais ils gardent cet équilibre. Et s'ils partent à gauche, ils peuvent perdre l'équilibre à gauche ou à droite. Eh bien l'équilibre de l'Évangile, c'est le même. Il faut que l'on puisse avoir cet équilibre de l'Évangile pour pouvoir rester sur cette corde et ne pas perdre l'équilibre soit pour partir dans quelque chose de trop rigoureux. Vous savez, tout ce qui est... aujourd'hui, il y a certaines religions qui sont intégristes, qui sont vraiment parties dans la lettre. Et la parole nous dit bien que la lettre peut tuer. Et puis d'un autre côté, il y a tous ceux qui, Dieu est amour, Dieu pardonne tout, etc. Et tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie parce que Dieu va te pardonner et Dieu va t'accueillir. Non, il faut que l'on puisse avoir cette notion de connaissance, de sagesse devant Dieu et que l'on puisse garder un équilibre de l'Évangile. Et c'est pour ça que je vous encourage, et je vous encouragerai tout le temps, et on vous encourage avec l'équipe, de pouvoir ouvrir votre Bible et de pouvoir aller regarder ce que Jésus vous a dit, ou ce que Jésus vous dit, ou même Paul, dans tous les écrits, dans les évangiles, dans l'Ancien Testament, que l'on puisse réellement aller voir comment Dieu veut que l'on puisse garder cet équilibre dans nos vies. Amen. L'équilibre de l'Évangile. C'est important d'avoir cet équilibre. C'est important parce que c'est là où Jésus peut agir. C'est lui qui va faire en sorte que vous puissiez garder votre équilibre, que vous ne quittiez pas ou que vous ne tombiez pas de la corde qui est tendue devant vous. Et c'est justement par rapport à un passage qu'on va prendre juste après, mais juste avant ça, clairement, il y a quelques temps de ça, j'ai reçu dans mon cœur de relire le livre de Jérémie. Vous savez, je vais prendre un passage tout à l'heure de Jérémie. Le livre de Jérémie, donc pour vous donner un peu le contexte, c'est dans l'Ancien Testament, c'est un prophète. Jérémie est un prophète qui a été appelé par Dieu. Et au début, Jérémie disait, mais Seigneur, je ne sais pas parler. Et Dieu lui a dit, mais oh, tu n'as pas besoin de dire que tu ne sais pas parler. C'est moi qui vais mettre mes paroles dans ta bouche. Et donc, à partir de là, Jérémie, il a donné quand même des prophéties qui n'étaient pas piquées des hannetons. Vous connaissez cette expression-là? C'est-à-dire que les prophéties de Jérémie sont quand même assez péchues, assez costauds. Et il s'adresse au peuple d'Israël et au peuple de Juda. Et ce livre, quand on se remet à la fois dans le contexte de l'époque, mais si on se met dans ce livre-là et qu'on le lit en regardant bien tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, vous pouvez voir que ce livre de Jérémie, même s'il est dans l'Ancien Testament et même tout ce qu'on peut dire par rapport à ça, ce livre de Jérémie est très actuel. Il est très actuel. Et c'est vrai que plus je le lis, et je partageais ça avec Nathalie lundi quand on s'est rencontrés, il y a un moment, la semaine dernière, j'étais en train de lire ce livre de Jérémie, je tremblais de tout mon corps. Parce que je me dis que Dieu prévient son peuple. Ne soyons pas des auditeurs oublieux, ne soyons pas là à attendre, comme vous savez, les petits oisillons dans le nid, à attendre qu'on leur donne à manger dans le bec. Non, soyons des oisillons qui essaient de voler, qui essaient de sortir de leur zone de confort. Je sais que je suis dur ce matin, mais je pense que ce sont des points que l'on doit entendre. C'est quelque chose, quand Alex parle d'une année de consolidation, c'est tout simplement parce qu'il faut absolument, pour qu'un mur ne tombe pas, il faut que tout le temps on soit attentif à la moindre fissure, et que s'il y a une fissure qui arrive dans le mur, qu'on puisse la colmater, qu'on puisse renforcer un mur, et qu'on puisse le renforcer ce mur, qu'il ne tombe pas au premier coup de tempête. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans des circonstances qui ne doivent pas nous alarmer ou nous inquiéter parce que Dieu est à la manœuvre, mais qu'au contraire, c'est là où on doit voir la main de Dieu. Jérémie, chapitre 10, les versets 23 et 24. « Je sais, Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit. » Et rien que ça, je devrais m'arrêter là. J'ai longtemps pesté, vous savez, sur les gens où, quand vous les appelez ou vous leur envoyez un mail ou un SMS, et qui ces gens-là, des fois, il y a des gens qui vous répondent « Oui, Dieu voulant ». Vous n'avez jamais eu ça ? Les gens qui vous répondent, bah oui, Dieu voulant. Et moi, ça me choquait, ça. Ça me choquait, et ça me choque aussi parce que des fois, c'est une bonne excuse. C'est le fait de dire, bah oui, si Dieu veut, par exemple, il y en avait certains, je suis le secrétaire d'Emma, donc j'ai envoyé les invitations à tous les pasteurs pour dire, voilà, on se réunit tel jour, et certains me répondaient, bah oui, je serai là, Dieu voulant. Et ça m'est arrivé de répondre en mail en disant, bah oui, Dieu veut, viens. Parce que c'est devenu un peu l'expression un peu bateau, vous savez, comme aujourd'hui quand on demande à quelqu'un si ça va et qu'on s'en fout complètement de savoir s'il va bien ou pas. Vous savez, quand vous allez serrer la main à votre collègue, « Salut, ça va ?» On ne regarde même plus la personne dans les yeux. On ne regarde plus parce qu'on s'en fout de savoir s'il va ou il ne va pas. Et là, c'est pareil. Certains chrétiens vont vous répondre « Oui, Dieu voulant. » Et toutefois, vous voyez, eh bien, ça, j'ai pris un extrême, mais il y a l'autre aussi, l'autre côté de cette expression qui est très juste. Parce que, et c'est ce que nous dit Jérémie ici, « Je sais, Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout ce que je fais aujourd'hui, demain, ce que j'ai fait hier, a été contrôlé par Dieu, a été voulu de Dieu ? Il n'y en a pas un qui va oser répondre. Ben, je crois que oui. Et c'est pour ça que des fois, on va parler de désobéissance, parce qu'il y a des choses que l'on fait qui vont attrister le Saint-Esprit. C'est noté de toute lettre dans la Bible. Il y a des circonstances dans nos vies qui font qu'on attriste le Saint-Esprit. Où Dieu n'est pas content de ce que l'on fait ou ce que l'on est, parce que ce que Dieu veut, c'est que le moindre pas que tu vas faire dans ta journée soit contrôlé par lui. Je continue. Verset 24. « Corrige-moi, Éternel, mais dans une juste mesure et non dans ta colère, sinon tu m'affaiblirais trop. » Je vous laisse le temps de cogiter. Je sais, Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Corrige-moi, Éternel, mais dans une juste mesure et non dans ta colère. Sinon, tu m'affaiblirais de trop. Ce verset, je l'avais déjà préparé depuis quelques jours. Et ça m'a été confirmé, parce que là, on revient de Normandie. On a passé le jour de l'an en Normandie. On est rentré hier. D'ailleurs, vous avez le bonjour de Bernay. Et mon neveu, justement, m'en parlait parce que dans une discussion, on a eu un gros partage hier matin ensemble. Et il m'a dit, mais aujourd'hui, en tant que chrétien, on ne devrait pas avoir nos propres projets. On devrait tout remettre à Dieu. C'est Dieu qui devrait faire en sorte que chaque pas que l'on fait soit voulu de lui. Que tous les projets que l'on fait soient voulus de lui. Que tout ce que l'on fait dans nos vies soit toujours remis sous la coupole de Dieu. Que tout ce que l'on pense puisse être remis sous la coupole de Dieu. Que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, que l'on fasse attention, la parole, la Bible nous prévient sur ce qui sort de notre bouche. Il faut que ce soit toujours des paroles de bénédiction et non pas de malédiction. Et ça a été, ça, pour moi, ça a été une confirmation. Quand on a eu ce partage avec Samuel, ça a été une confirmation. Il m'a dit des choses qui m'ont conforté dans ce que j'avais à vous partager ce matin. Et après, on va peut-être demander à Josine de répéter toute la prophétie qu'elle a donnée tout à l'heure. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, je veux croire et je veux vraiment croire que 2021, il faut que l'on puisse prendre conscience de certains points dans nos vies, et que l'on puisse vraiment être encouragé, parce que Dieu veut que l'on puisse être encouragé, parce qu'il est à la barre, il est à la manœuvre. C'est lui qui contrôle toute chose. Justement, je parlais avec Samuel d'une expérience que j'ai vécue, parce que là-bas, il travaille avec Victor Gutiérrez, qui est un prophète. Et un jour, Victor était à la maison, et je suis allé avec lui pour prendre une voiture de location à l'aéroport de Léquin. Et il vit dans une autre dimension, littéralement. Il est à l'écoute de Dieu, mais d'une façon hyper pointue. C'est assez parfois, c'est perturbant, c'est troublant. Quand vous avez le bonhomme qui vous dit « Oh là là, il faut que j'aille dormir un peu parce que j'entends plus Dieu. » Ça fait un peu bizarre. Mais quand on est arrivé, qu'il a pris possession de la voiture de location, il a mis une bonne demi-heure à prier sur la voiture. Et on était sur le parking, il a ouvert toutes les portes, la boîte à gants, le coffre. Et il a imposé les mains à la bagnole parce qu'il ne savait pas ce qui s'était passé dans la voiture. C'était une voiture de location, il aurait très bien pu se passer des trucs dans cette bagnole. Et lui, il veut toujours être sous la protection de Dieu. Et donc, il a fait en sorte que pour prendre la voiture puisse être pure, entre guillemets. Et là, moi, j'étais là avec lui sur le parking et il y avait les gens qui passaient. Je me suis dit, mais ils vont nous prendre pour des dingues, là. Ils vont nous prendre pour des fous, littéralement. Hein. Et lui, il a fait le tour de la bagnole pendant au moins une demi-heure. On ne savait pas ce qui s'est passé dans cette voiture. Parce qu'il veut absolument que tout ce qu'il fait, toutes les actions qu'il va avoir dans la journée soient remises devant Dieu. J'avoue que cette dimension, je ne la connais pas. Aller jusqu'à prier pour une voiture, non, je m'étais dit peut-être pas quand même, mais a priori, oui. Et donc, c'est là où moi, je voudrais vous parler de la zone de confort, votre zone de confort. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument que quand on parle d'une année de consolidation, forcément, vous allez sortir de votre zone de confort. Et si vous restez dans votre zone de confort, vous n'allez rien consolider, vous n'allez rien... Je vais parler avec moi dedans, hein. On ne va rien construire. Parce qu'il y a des endroits de notre vie que l'on ne veut pas quitter. Voyez le nid qui est là. Donc pour ceux qui parlent couramment anglais, il y en a peu ici. Je suis le seul d'ailleurs. Mais... Who, what, why, what for, how. Alors, ici, vous avez Nadia. How, ouais. Hein, Nadia? Nadia, elle a l'accent bien, bien british. How. Donc voilà, c'est le H expiré. C'est ça, hein? How. Donc, je me suis dit, est-ce que je le mets en français? Non, je me suis dit, on va les honorer un petit peu, parce que les pauvres, ils sont aussi inquiets depuis qu'ils sont sortis de l'Europe. Mais bon, voilà, c'est dit. Donc, vous voyez, on est dans une zone de confort, on est dans notre nid. Tout à l'heure, je parlais de l'oisillon, on est dans un nid. C'est le parfait exemple de l'oisillon qui va devoir, à un moment donné, se faire son plumage, devoir prendre des forces. Donc, oui, effectivement, les parents sont, dans un premier temps, obligés de venir le nourrir. Donc, il a le bec grand ouvert. Vous voyez comment ils sont, les oisillons? Je suis le seul à avoir vu des reportages sur les oisillons. Rassurez-moi, là. Vous voyez, je le fais bien, l'oisillon. Non? D'accord. Et donc arrive un moment où il y a ses plumes qui vont pousser, il va devoir sortir de son nid et il va devoir partir dans ce qu'on appelle la zone d'enseignement. Alors attendez, je vais prendre l'expression, la zone d'apprentissage, voilà, ça ne me revenait pas. La zone d'apprentissage. Il va devoir quitter le nid, partir dans la zone d'apprentissage. Et déjà là, eh bien, quand on part dans la zone d'apprentissage, on sort de sa zone de confort. Et c'est hyper inquiétant, c'est hyper difficile de sortir de sa zone de confort parce qu'on aime bien rester dans tout ce que l'on connaît. La zone de confort, on est bien là où on est. Moi, j'aime bien être assis sur ma chaise parce que je la connais, cette chaise. J'ai écrit mon nom dessus. Ne la prenez pas, c'est ma chaise. Il y a ma chaise, il y a mon nom en dessous. Et si vous me mettez au fond là-bas à gauche, je vais être paumé parce que j'ai plus l'habitude de voir l'estrade sous le même angle. J'aurais plus cette notion de pouvoir voir Alex par-dessous quand je serai assis là. Mais je le verrai de loin. Et quand je le vois de près, il est plus grand que... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut très bien avoir peur. Parce que forcément, eh bien, quand on est devant, certains vont avoir peur de se mettre devant parce que des fois, ben, il y a le prédicateur qui va vous interpeller. Il prend souvent les gens devant pour les mettre un petit peu mal à l'aise. Et c'est sûr que ceux derrière, on les prend un petit peu moins souvent. Donc venir devant, c'est plus difficile. On n'est pas dans notre zone de confort. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, je suis capable de dire où vous êtes assis. Parce qu'on est dans notre zone de confort. Et la zone d'apprentissage, c'est de pouvoir dire, bah, tiens, arrive un moment, et je vous encourage, dimanche prochain, bon, c'est vrai qu'avec le Covid, on est un petit peu embêtés, mais dimanche prochain, tous changez de chaise. Allez vous asseoir ailleurs. Bon, Antoine, quand il va revenir, il va être perturbé. Il va dire, bah, je ne les retrouve plus, là. Ils ont tout mélangé mon église. Mais non. Et vous savez quoi? C'est que quand les gens sont, par exemple, dans leur travail, ils sont des fois habitués, par exemple, à ce que, dans leur travail, ils aient leur stylo bic qui soit là à droite, ils ont leurs règles et leur gomme qui est là, ils ont leur zone de confort, ils ont leur bureau, la fenêtre est fermée, le store est ouvert à ça, parce que si je l'ouvre un peu plus grand, je suis habitué à ce que le lundi matin, j'ai mon directeur qui vienne m'enguirlander parce que la semaine dernière, j'ai fait une mauvaise semaine ou quoi que ce soit. On est habitué, c'est notre zone de confort. Et le fait de sortir de cette zone-là et de pouvoir, à un moment donné, se lever de son bureau et dire, oh, attends, c'est bon, maintenant, tous les lundis matin, tu viens m'enguirlander, ça va changer maintenant. Là, on est dans une zone d'apprentissage. Et donc, spirituellement, on est exactement pareil. Il faut que l'on puisse sortir de cette zone de confort. Tout à l'heure, je vous disais que pour moi, 2020, ça a été aussi une période où je me suis mis avec ma guitare à pouvoir écrire des paroles. Et longtemps, j'ai dit, je ne suis pas un parolier. Je suis capable de me mettre sur un piano et à ce qu'il y ait des mélodies qui viennent. Mais je m'étais dit, les paroles, je ne serais pas capable d'écrire des paroles de chant. Et là, je l'ai fait. Je suis sorti de ma zone de confort. Je suis parti dans une zone d'apprentissage où j'ai passé du temps à pouvoir dire, Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais dire dans ce chant-là? Quel thème tu aimerais que je prenne pour pouvoir faire en sorte que ce chant puisse dire quelque chose? Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Levez la main si vous êtes avec moi. Ah, bande de feuillots. Je plaisante. Non. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que dans la zone de confort, vous savez, dans toutes les, vous allez regarder sur YouTube, sur le Google, il y a plein de choses sur la zone de confort. Ce qui est dit clairement, c'est que quand on veut aller dans la zone d'apprentissage, il y a deux forces qui sont là et qui vont vous empêcher soit de quitter votre zone de confort, soit qui sont là vraiment pour vous empêcher de faire tout. Et en fait, ce sont deux tensions. Il y a une tension émotionnelle et il y a la tension créative. La tension émotionnelle va faire en sorte de dire « j'ai peur, si je sors de ma zone de confort, je ne vais plus pouvoir revenir dedans et je vais être coincé parce que je ne serai plus dans ma zone de confort ». Donc ça, c'est la zone émotionnelle. Vous savez, je suis le premier à vivre ça. Quand je vais quelque part et que j'ai la peur de l'inconnu, ce qu'on appelle la peur de l'inconnu, c'est une tension émotionnelle. La tension émotionnelle, c'est de dire qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qu'on va me dire, qui je vais rencontrer, comment il va être beau, est-ce qu'il va être grand, est-ce qu'il va être petit, ça va être une femme, ça va être un homme, est-ce qu'il va me dire ça ou ça. Et là, on est dans une tension émotionnelle, à dire ben, je préfère ne pas y aller. Et c'est là où on a perdu, parce qu'on préfère dire j'y vais pas. Et dans toutes les formations sur la zone de confort, arrive le moment où quand vous êtes dans votre zone d'apprentissage et que vous arrivez à contrôler votre zone d'apprentissage, ça va étendre votre zone de confort et vous allez arriver dans une zone, ce qu'ils appellent la zone magique. La zone magique, c'est que vous allez pouvoir étendre votre zone de confort. Et j'ai vu certaines formations où ils parlent de gens qui, par exemple, prennent des cours d'anglais. Aujourd'hui, vous avez des personnes même de 60, 70 ans qui se mettent à l'anglais. Oh. Bon, ce n'est pas une bonne idée, mais bon, ils se mettent à l'anglais. Mais ils s'y mettent parce qu'ils veulent étendre leur zone de confort, ils veulent être dans une zone d'apprentissage, parce que ça va leur permettre peut-être de voyager, d'aller dans des pays anglophones, etc. Et bien, spirituellement, et là, vous vous dites, mais Fred, t'es un petit peu long dans tout ce que tu dis, je suis le premier à le penser. Mais spirituellement, c'est pareil. Quand on vous demande, quand on vous dit, quand on vous préconise de passer du temps dans la prière, de passer du temps dans la lecture de votre Bible, c'est pas pour faire bien, c'est pas pour dire, Seigneur, t'as vu, aujourd'hui j'ai lu deux chapitres, c'est très bien pour un début, mais arrive un moment, il faut aller plus loin. Il faut pouvoir dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire dans ta parole? Parce qu'aujourd'hui, la Bible est un livre vivant et c'est un livre qui veut vous parler. Je vais passer rapidement parce que forcément, mais quand on parle de ça, et j'ai pris quelques exemples, mais vous voyez, il y a quelques mots qui font peur pour ça. Il y a le fait d'essayer, et c'est en droite ligne, c'est la formation commerciale que j'ai eue. C'est que quelqu'un qui va essayer de faire quelque chose va forcément être dans une tension émotionnelle. Et essayer de pouvoir, vous savez, j'en parlais encore hier, ou je ne sais plus avec qui, je pense que voilà. J'ai personnellement une phobie. Et je vais vous le confesser ce matin parce que voilà, ça me fait mal et ça me dessert dans pas mal de choses, aussi bien dans mon ministère que dans ma vie professionnelle. Je suis phobique du téléphone. Je déteste téléphoner. Ça vous surprend, ça, hein ? C'est quelque chose que je suis phobique de ça. Il y a eu pendant de longues années où, quand j'étais dans l'immobilier, on nous filait un listing et puis on nous disait, voilà, toute cette liste de gens, c'est les anciens clients, tu vas tous les rappeler pour qu'ils rachètent un appartement. Et ça, je ne peux plus. Aujourd'hui, j'ai cette phobie du téléphone. Et je suis dans ma zone de confort. C'est-à-dire que quand je peux éviter de téléphoner, je suis bien. À partir du moment où on commence à me dire bah, « il faudrait bien que tu appelles un tel ou un tel » parce que forcément, bah, je suis obligé des fois de le prendre le téléphone, je suis mal. Je suis mal dans ma peau. Parce que là, je vais partir dans une zone d'apprentissage, mais dans une zone où je ne suis pas dans ma zone de confort. Je suis hors limite de ma zone de confort. Et je ne suis pas à l'aise. Et je suis sûr qu'ici, on a tous des phobies. On a tous des phobies. Je viens de vous en confesser une, je ne vais pas vous demander de confesser la vôtre. Mais ce que j'aimerais, moi, c'est vous encourager cette année. Et je vais essayer, je ne sais pas si je vais réussir, je vais essayer, moi, de travailler là-dessus. Après, il y a le fait de tester ou de tenter. Tenter quelque chose. Pourquoi tout à l'heure, quand j'ai parlé des gens qui ont une fibre prophétique, pourquoi j'ai dit, bah, si vous avez des choses dans le cœur et que vous sentez que Dieu veut les donner à l'Église, eh bien, dites-nous-le. Il faut que l'on puisse révéler, et ça fait partie de la droite, en droite ligne, c'est la vision du phare. C'est d'élever des ministères. Est-ce que tout le monde connaît la vision du phare? Elle est écrite en toutes lettres dans le hall. C'est pas pour faire joli les beaux dessins qu'on adore, là dans le hall. La vision du phare, c'est notre leitmotiv, c'est notre objectif. Notre objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que des gens connaissent Jésus, qu'ils puissent découvrir cette joie immense de connaître Jésus et de devenir ce qu'on appelle un chrétien pompeusement. Mais vraiment avoir cette démarche de connaissance de Jésus. Après, c'est de pouvoir élever des ministères. Parce que la Bible parle de plusieurs ministères. Il faut absolument que les ministères soient reconnus et soient élevés. Pas élevé dans le sens orgueil du terme, mais élevé dans le sens révélation du terme. Et puis le dernier point de notre vision, c'est d'ouvrir des églises. Pourquoi dans certains villages, vous avez 4 boulangeries? Et pourquoi dans ce village-là, il n'y aurait pas 4 églises? Eh bien, c'est ça. Il faut que les gens puissent connaître Jésus-Christ réellement. Parce qu'on n'est pas là pour proclamer une religion. Le terme sur lequel, moi, on m'a beaucoup mis l'accent, c'est le fait d'oser. Oser. Pascaline, elle est terrible pour ça. Des fois, elle vous met mal à l'aise. Elle prend le téléphone ou elle va aller dans un truc, elle va réclamer une remise. Elle ose. Se lancer dans une aventure, se lancer dans une zone d'apprentissage. Je vais m'arrêter là. Je voudrais vraiment que l'on puisse... Vous voyez, il est déjà moins le quart. Je suis désolé, j'ai débordé un petit peu. Je voudrais vraiment lire ce dernier passage de Philippiens qui dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme. » Parce que Dieu a implanté quelque chose en vous qui est forcément bon pour son royaume. Et donc, vous voyez, il dit qu'il va la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Jusqu'au jour de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on se doit toujours, en tant que chrétien, d'être toujours dans une zone d'apprentissage. Ne nous enfermons pas dans notre zone de confort, parce que notre zone de confort devient une forteresse. Et vous connaissez la différence entre une prison et une forteresse? Une prison, on vous y enferme, la forteresse, vous vous y enfermez tout seul. Je termine avec 2 expressions. Il vaut mieux avoir de l'avenir que du passé. On a gommé 2020, on est rentré dans 2021, mais on a aussi gommé 2019 et on entrera dans 2022 l'année prochaine. Il vaut mieux avoir des projets d'avenir et toujours être vraiment dans ce souci, dans cette envie de pouvoir aller toujours plus loin. Donc là, c'est un philosophe qui a dit ça. Il vaut mieux avoir de l'avenir que du passé. Et la deuxième expression que j'aimerais vous laisser, il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie, mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses années. Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie, mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses années. Et ça, c'est un écrivain bien connu qui a dit ça, c'est Oscar Wilde. Donc encore, je vous le dis une nouvelle fois, je vous souhaite le meilleur pour 2021. Je vous souhaite le meilleur pour 2021, avec des bénédictions auxquelles vous ne vous attendez pas maintenant. Parce que je pense que si on sort de notre zone de confort et qu'on part dans une zone d'apprentissage et qu'on part dans la zone magique, alors c'est pompeux de dire de la zone magique, parce que voilà, mais si on part dans une zone qui nous est inconnue, je pense que Dieu va se révéler à nous puissamment. Je suis admiratif de voir en ce moment ce qui se passe dans certaines églises. Hier, cette nuit plutôt, quand j'étais en train de travailler sur ma prédication, à un moment j'ai mis UMCI TV et je suis tombé sur le spectacle de Noël de la chapelle au Québec. Et on se serait cru dans un théâtre professionnel. Ils ont fait un spectacle de Noël qui est tout bonnement professionnel, avec une qualité de décor, de jeu, une qualité de dialogue, une qualité de musique, une qualité à tout niveau qui est vraiment et qui est littéralement somptueuse. Parce qu'il est arrivé un moment où il y a des talents qui se sont levés dans l'église en disant « Voilà, moi ce que j'ai à cœur, c'est de pouvoir mettre ça en place. » Et ils ont mis quelque chose en place qui aujourd'hui est un témoignage dans le monde entier. Et moi, j'ai qu'une hâte. Et déjà, le phare ici, on rayonne d'un point de vue national et international. Mais j'ai hâte que l'on puisse réellement partir dans des projets que Dieu va nous mettre dans le cœur. Et c'est pour ça que là, j'aimerais vraiment, si ceux que j'ai interpellés tout à l'heure, si vous avez reçu des choses de Dieu dans votre cœur et que vous avez envie de les partager, n'hésitez pas, venez, approchez-vous maintenant. Approchez-vous maintenant, je vais vous donner la parole. Clairement et littéralement, je voulais prendre un chant à la fin de ma prédication, un chant qui m'a vraiment percuté, qui m'a fait un bien immense. Toujours de l'église de la Chapelle à Montréal. Je vais simplement vous lire les paroles parce que ce matin, j'ai eu la flemme de ramener mes guitares et de tout installer. Donc, je ne l'ai pas fait, je suis un peu fatigué. Vous voyez, les paroles disent dans le couplet « Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. » Les paroles de ce chant sont littéralement des paroles pour aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, toutes les craintes que tu peux avoir sur l'année 2020, tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as pu vivre, parce que tu as pu vivre des choses qui sont tristes, graves, tu ne sais pas comment tu vas te dépêtrer de ça, mais sache que Dieu a les regards tournés vers toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Et quand on prend les différents ponts, il y en a trois, que sa faveur reste sur toi. Pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants, et les enfants de tes enfants. Si dans ta famille, tu fais rentrer la bénédiction de Dieu, Dieu va rester et va mettre sa tente sur ta famille, et la bénédiction va aller de génération en génération. Moi, je crois que parce que j'ai cette bénédiction sur moi, je crois que mes enfants ont cette bénédiction sur eux, de par la bénédiction du Père, et qu'eux, en tant que parents, vont apporter la bénédiction sur leurs enfants, etc. Et la Bible nous parle bien de 1000 générations. Une génération dans la Bible, c'est 40 ans. Que sa présence t'environne, là, avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure, il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, et j'ai coupé une lettre, il est pour toi. C'est un chant que j'aimerais réellement qu'on chante ici, parce que les paroles sont tellement fortes et puissantes. Je la mettrai, on mettra merci Sandy, elle m'a téléchargé la vidéo un peu en dernière minute. On la mettra tout à l'heure en fond, vous pourrez la regarder si vous le souhaitez, elle fait quelques minutes. Ce chant est merveilleux, littéralement. De par la musique, mais aussi par les paroles. Là, il faut que l'on puisse confesser ça. Et vous voyez, je suis parti, là, je pourrais parler pendant des heures tellement j'ai envie de vous donner cette niaque pour que 2021, on puisse voir des choses nouvelles et qu'on puisse aller dans des choses nouvelles, qu'on puisse aller dans une zone d'apprentissage, partir dans la zone magique où on sera vraiment... On ne va pas être des petits anges, vous savez, en train de jouer de la harpe, assis sur un nuage, hein, c'est pas ça. Hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais tout simplement, Dieu va intervenir dans vos cœurs, dans vos vies. Si vous remettez chaque jour de votre vie devant Dieu et que vous dites « Seigneur, aujourd'hui je veux être dans tes plans, je veux que chaque pas que je fais, ce soit toi qui les fasses pour moi », sachez que Dieu va agir. Là, je vous ai tous assommés. Là, je vous vois tous avec les bras croisés, etc. Je les ai tous assommés. Non, il ne faut pas que vous soyez assommés. Au contraire, prenez du courage, prenez vraiment cette niaque et que ça puisse être là dans vos tripes avec le baptême de feu dont parle le Nouveau Testament. Il faut qu'on puisse avoir ce baptême de feu qui fait qu'on a toujours envie d'aller de l'avant avec Dieu. Il y a des projets qui arrivent, des beaux projets. Soyons attentifs. Et si vous avez des choses dans le cœur, venez nous voir. Parce que l'équipe pastorale, on est là pour entendre. On n'est pas à dire, voilà, c'est pas pyramidal, hein, c'est pas l'équipe des pasteurs qui est là-haut et puis le reste du monde. Hein. On n'est pas pyramidal, au contraire. On est là pour pouvoir élever chacun. On est là pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez vous épanouir spirituellement. Donc venez nous voir.